Ça se reconnaît, un écologiste.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils sont 50.
CO2.
Ça a des lunettes, ça a une barre, ça a un cavoué.
En amour.
Tu préfères les bagnoles?
Peut-être.
Denis Chessou.
J'ai une recette du pays.
Sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond et qui prend le temps de ne pas aller vite avec aujourd'hui à la technique Serge Jakubowski, Jean-André Giannichini de Frequenza Mora que l'on remercie, Christophe Mongin, notre régisseur et assisté de Marion Lelay, de Jean-Christophe Pinaza, c'est Valérie Ayestaraï Basque qui réalise l'émission. Alors bienvenue en direct de Calvi où nous sommes réunis pour la 19e édition du Festiventoux, le festival du vent. Mais pour commencer, une triste nouvelle de Toussaint, et oui, vous le savez, Paul le poulpe est mort. Alors consternation en Allemagne et chez les amoureux du ballon rond, on a perdu un génie. Qui va nous prédire le résultat de l'équipe de France lors de la prochaine Coupe du Monde? Eh oui, ne souriez pas avec les poulpes parce que Théodore Monod prédisait qu'après les hommes, eh bien ce sont les céphalopodes dotés d'une belle intelligence qui pourraient régner sur Terre si nous continuons à nous autodétruire avec autant d'opiniâtreté. Mais avant de nous quitter, si Paul le poulpe n'a pas réussi à lire le nom de notre prochain Premier ministre, il peut aussi nous confirmer que, raffinerie en grève ou pas, le gasoil, le sans-plomb, un jour ou l'autre, fera peut-être s'en passer. Il pourrait nous dire aussi que le prix de l'électricité va continuer d'augmenter, parce que sur le marché de l'énergie, c'est la concurrence, mais pas celle qui fait baisser les prix, comme dans les manuels d'économie, pas du tout. Entre EDF et GDF, c'est plutôt la version « celui qui aura la plus grosse augmentation de tarifs en un an, allez, 8, 10, 20% ». Qu'aurait pensé aussi Paul le Poulpe de Nagoya? Peut-être qu'il aurait pu se réjouir, même si par ailleurs, juste après cette conférence, eh ben, les baleiniers japonais s'empressent d'affûter le harpon pour leur campagne de 2010. La réponse à nos questions, chantait Dylan, la réponse, mon avis, mon ami, eh bien, elle souffle dans le vent. Alors bienvenue au Festiventoux, ce caravansérail de chercheurs de réponses, professionnels, anonymes, artistes, éco-citoyens convaincus, réunis ici et avec pour le but d'inventer une société capable de produire de la richesse sans détruire le vivant. Alors en cette fin octobre, la Corse n'est plus un immense barbecue pour touristes, mais un bel automne qui s'allonge comme un chat qui prend le soleil. Le sommet des montagnes a été saupoudré de sucre glace par la main du froid naissant. Nous sommes donc à Calvi, au pied de la citadelle génoise. La Balagne et son enclave de collines fertiles nous accueillent sous la houlette de Karina Oru, sa directrice. Et puis si vous avez la chance, comme je l'ai eu hier, de voir à vélo les derniers feux du couchant caresser la joue d'un village de montagne corse, de voir notre soleil se mettre le feu à la mer en plongeant la tête la première, eh bien je crois qu'on peut se réconcilier avec le monde entier. Donc bienvenue à tous auditeurs de France Inter et amis ici présents de ce Festiventoux 2010. Voilà, merci donc à cette foule en délire et donc aussi au président d'honneur de ce Festiventoux qui en est le créateur, son épouse donc Karine est la directrice. Serge a créé donc il y a 19 ans ce Festival du Vent et puis il est aussi le directeur du WWF France. Alors ce qui nous intéresse aussi, on va commencer par l'actualité comme on fait régulièrement avec une actu, Serge Auru, donc conférence sur la biodiversité sur le vivant donc à Nagoya. J'allais presque dire Copenhague 0, Nagoya 1, on peut quand même se réjouir. On sait que les choses ne sont pas, on va dire, obligatoires, ne sont pas contraintes, mais qu'est-ce que l'on peut dire sur Nagoya aujourd'hui?
Nagoya, mon amour, on peut dire, parce que l'environnement revient en force sur la scène internationale après le fiasco de Copenhague, on s'était pris une grosse rouste. Voilà, là, à Nagoya, il s'agit d'un plan de sauvetage de la biodiversité pour les 10 prochaines années, Denis. Kyoto, c'était la prise de conscience du changement climatique. Nagoya, c'est le début de la fin de l'inconscience sur la nature et sa biodiversité. Car vous venez de le dire, il va falloir inventer la façon de créer de la richesse sans détruire notre environnement immédiat et lointain, ce vital dont nous avons besoin pour vivre, nous et nos générations futures. La nature est le socle même de notre économie et surtout le socle de notre civilisation. Alors tous ensemble, Nagoya mon amour.
Bien, merci à vous cher Serge. On voit aussi qu'il y a quand même, on va dire, des prises de décision. Une fois de plus, je le dis, il n'y a pas encore de contraintes. Les États-Unis n'ont pas signé non plus donc,
Mais ils n'avaient pas signé Kyoto.
Non, donc, mais ce n'est pas dans leurs habitudes non plus.
Ça, non c'est un processus qui vise à enrayer le processus qui semblait inéluctable de la destruction des écosystèmes.
Aujourd'hui, concrètement, on n'y est pas encore, mais en Corse, qu'est-ce que ça pourrait donner ? Parce qu'on a 1% des surfaces marines mondiales qui sont protégées et on voudrait passer à peu près à 10%.
Bah, vous rendez compte, 10% de la surface totale des océans, ça veut dire qu'en Corse, nous aurons davantage d'aires marines protégées. Les aires terrestres protégées, aujourd'hui dans le monde, c'est 13%. Nous allons passer à 17%. Donc là aussi, nous allons devoir, ici et ailleurs, préserver notre vivant.
Merci à vous, Serge. De toute façon, vous interviendrez aussi. Alors, diversité du vivant, mais diversité des intervenants, c'est le principe du Festival du Vent, avec Françoise-Hélène Jourda, qui est architecte, avec Adèle Murtada, qui est thermicien et qui travaille sur le bassin méditerranéen dans lequel nous sommes. Et on voit bien que ça se réchauffe quand même aussi assez fortement. Jean-Paul Jaude, cinéaste, nous parlera de Severne, son dernier film. J.P. Nataf, chanteur, sera avec nous. Et sans doute aussi la Compagnie des Loupiots, qui parle aux enfants. Voici donc le menu. On va agiter le tout parce que vous êtes là à la fois en direct derrière le poste et avec nous. Et on va commencer par écouter Bernard Lavilliers. Ça pourrait être un invité du Festival du Vent, hein, ça, Serge Lavilliers.
Ça fait longtemps que nous l'avons invité, mais il va venir un jour.
Allez, exilé.
C'est au de mon amour, Denis Chessou.
J'ai deux bracelets d'acier qui entravent mes bras. Le bruit des bottes qui résonne, mon père a connu ça. Frapper à des portes en fer qui ne s'ouvrent pas. Parler à des gens trop fiers qui ne me voient pas. Plus rester, plus partir, plus rêver, on finit naufragé, solitaire, barbelé aux frontières. Capitale douceur Paris, je dormais dans tes bras. Capitale violence aussi, je ne te reconnais pas. Toi Paris, ma beauté fatale, symbole de la France. Je me suis fait casser normal par ton indifférence. Plus rester, plus partir, plus rêver, on finit naufragé, solitaire, exilé, volontaire. De novembre encore, pose ses mains sur moi. Goût de fer et de cendre, la mort, je n'aime pas ce mois-là. La liste des droits de l'homme, la mélancolie. Juste un homme parmi les hommes, tout seul dans Paris. Plus rester, plus partir, plus rêver, on finit naufragé, solitaire, exilé, volontaire.
Nous sommes, vous le savez, en direct du Festival Ventoux, le Festival du Vent 2010 à Calvi, donc en Corse, avec des artistes de différents horizons. Jean-Paul Jaude est réalisateur. Il nous avait offert Nos enfants nous accuseront et son nouveau film, eh bien, il le présente ici. C'est Severne. Severne, c'est Sandrine, en fait. Séverine, pardon, en termes de traduction, et non pas Sandrine, Séverine, bien sûr. La voix de nos enfants, on écoute justement cette voix.
Bonjour, je m'appelle Severne Suzuki. Je vous parle au nom de l'Organisation environnementale des enfants. Nous avons 12 ans et nous essayons de faire avancer les choses. Nous avons réuni l'argent nécessaire pour faire 8000 km pour vous dire que vous, adultes, devez changer. Je suis venu ici aujourd'hui sans intention cachée. Je me bats pour mon avenir. Je suis ici pour parler au nom des générations futures, au nom des enfants qui meurent de faim dans le monde, dont les pleurs demeurent sans réponse. J'ai peur de m'exposer au soleil à cause des trous dans la couche d'ozone. Avant, j'allais pêcher avec mon père à Vancouver jusqu'à ce qu'on trouve des poissons pleins de cancer. Si vous ne savez pas comment réparer tout ça, s'il vous plaît, arrêtez le massacre.
Alors cette jeune fille, Severne Suzuki, avait 12 ans et elle interpellait les dirigeants du monde entier sur la situation humanitaire, écologique de la planète. Nous étions en 1992, nous étions au sommet de la Terre, donc de Rio. Et Jean-Paul Jaude a voulu voir 18 ans après, en fait, ce qu'était devenue cette jeune femme. Parce que Jean-Paul Jaude, sur l'affiche, j'ai très envie de commencer par cela, l'affiche du film, donc Severne, la voix de nos enfants. Eh bien, on voit cette jeune fille qui est enceinte, qui tient très joliment son ventre. Et puis derrière, il y a un gros rocher. Nous sommes en Colombie-Britannique. Quel est le rapport et symboliquement, qu'est-ce que ça signifie ?
Nous sommes dans l'île d'Aidaguay, dans le Pacifique, au-dessus de Vancouver, juste au sud de l'Alaska. Et ce rocher est en équilibre au bord du Pacifique. Il est derrière Severn. Et c'est un rocher sacré, ça s'appelle Rock Balance. C'est Aidaguay, c'est le peuple Aïda qui est là-bas depuis 10 000 ans. Et ce rocher est sacré. Voilà, et c'est Severn, d'ailleurs c'est une image du premier interview, de la première séquence. Severn, je lui ai demandé où est-ce que tu souhaiterais commencer à parler pour le film. Elle m'a dit, je souhaiterais être devant le Rock Balance, devant ce rocher sacré indien.
Alors, elle fait partie donc de ce peuple Aïda, hein, qui a une économie qui repose sur la pêche du saumon donc artisanale. Comment est-ce qu'elle a eu conscience à 12 ans de l'accélération de ces mouvements, parce qu'elle a été quand même sacrément écoutée. Ça donnait un sacré choc, je veux dire, à toutes les personnes qui ont écouté son discours.
Severn Cully Suzuki. Suzuki, c'est le nom de son papa, David Suzuki, qui est un environnementaliste nord-américain, canadien d'origine japonaise. Et sa maman est professeure d'université, donc il est évident qu'elle a grandi entre son papa et sa maman. Mais surtout, elle nous a dit que un an avant, c'est-à-dire qu'à 11 ans, elle a eu un choc. Son papa l'a emmenée en Amazonie. Et elle a découvert là, les peuples premiers. Et c'est là qu'elle a eu cette idée d'aller à Rio, bien sûr, et de créer une association.
Alors, elle nous sert vraiment de fil rouge tout au long donc, de ce film. Et puis, vous voulez aussi montrer des initiatives qui sont importantes et qui sont positives. Donc là aussi, ça va très bien que le Festival du Vent, ce sont d'autres manières de penser, d'autres manières d'agir, et touchant principalement l'agriculture. Pourquoi ? Parce que ça va être le nœud gordien de notre civilisation, ce que l'on connaît depuis longtemps. On voit évidemment qu'il y a moins de terres arables, on sait qu'il y a le réchauffement climatique, etc. Mais il y a des gens qui pensent autrement, qui agissent différemment. Et parlez-nous, s'il vous plaît, de cet homme donc, qui est au Japon, parce que vous êtes allé en France, au Canada et au Japon. Et cet homme-là, eh ben, c'est presque une fable. J'allais dire que c'est l'histoire de l'homme, de la rizière et des canards.
Oui, juste avant, je voudrais dire que je suis allé au Japon parce que le Japon est le pays qui symbolise la super consommation. Mais au Japon, il y a aussi des gens formidables comme Takao Furuno qui cultivent l'aliment le plus consommé sur la planète, le riz. Et il démontre, Takao Furuno, en faisant une agriculture bio, respectueuse de l'environnement, que, on peut employer le mot, que ses rendements sont de 30% supérieurs à l'agriculture, à la riziculture conventionnelle. Et il n'utilise pas de pesticides. Et si, il utilise un pesticide naturel.
Le canard.
Le petit canard.
Oui.
Voilà, le petit canard, dès qu'il est né, il le met dans la rizière. Et là, le canard joue le rôle de pesticide.
Alors, pesticides et aussi d'engrais.
Et bien sûr d'engrais, puisque les fientes du petit canard...
Il ne va pas aller aux toilettes, on est bien d'accord.
Les fientes du petit canard servent d'engrais, bien sûr. Là, on est en plein dans l'écosystème. Et... Ils servent d'engrais et en plus, il aère le sol. Enfin voilà, alors, Takao Furuno dit, moi, je n'ai rien inventé. Je n'ai fait que reprendre un procédé de 3000 ans, une méthode de 3000 ans. Mais par contre, il adapte aujourd'hui. Il n'a pas fait un recul en arrière de 3000 ans, Takao Furuno. Il l'a adapté aujourd'hui parce que Takao Furuno utilise des engins mécaniques aussi pour planter son riz ou pour faire la moisson.
Et donc un rendement supérieur de 30%, ce qui fait que les Chinois aujourd'hui s'intéressent très fortement à lui.
Oui, toute l'Asie. Là, ça a commencé par la Corée du Sud et maintenant il y a des milliers d'hectares en Chine, en Asie du Sud-Est, en Afrique aussi. Et juste avant que j'arrive pour le tournage, il a reçu pendant 2 mois un stagiaire sénégalais.
Et puis, bon, après, on va aussi aller en France. On retrouve Barjac. Là, nous sommes dans le sud de la France, où déjà vous aviez tourné pour Nos enfants nous accuseront. Et là aussi, d'autres manières de faire. Bon, on est bloqué par le prix du foncier, mais quand même, il y a d'autres manières de faire. Parce que là, il y a des termes qu'on n'entend pas encore très fortement dans les médias, mais ça va être la notion d'autonomie, non seulement énergétique, mais autonomie alimentaire.
Bien sûr, on est dans la cohérence environnementale totale, c'est-à-dire que Barjac, à 3 km de Barjac, il faut le dire pour les auditeurs qui ne savent pas, c'est une cantine scolaire qui est passée en bio. Il faut savoir que juste après avoir terminé, quasiment après avoir terminé Nos enfants nous accuseront, il y avait un domaine de 120 hectares à 3 km de Barjac qui était à vendre. Ce domaine était bien sûr à l'avance partagé par les agriculteurs conventionnels. Et Édouard Chollet, sur mes conseils, a fait appel à Terre de Lien. Oui. Terre de Lien, qui est une foncière qui met les terres nourricières à la disposition des jeunes agriculteurs qui n'ont pas la possibilité d'acheter des terres. Eh bien, là, on est dans la cohérence environnementale, c'est-à-dire que les enfants de la cantine de Barjac, tout simplement, dans quelques années, parce que là, il faut que les terres se reposent et redeviennent vivantes, eh bien, dans 3 ans, les enfants de Barjac pourront manger le pain cultivé sur les terres de Barjac, de ce domaine qui s'appelle la Grange des Prés, qui est un nom magnifique. Ils pourront manger les légumes de la Grange des Prés, le fromage de chèvre. Voilà.
Alors, lorsque Séverne s'adresse donc à la fois aux dirigeants, aux politiques, aux économistes qu'elle a sous les yeux, donc je le rappelle, elle a 12 ans et donc elle parle de pollution, elle parle de réchauffement, elle parle à la fois de sa force et en même temps un peu de sa peur d'affronter cet avenir. Et elle leur dit, mais pensiez-vous à cela quand vous aviez mon âge? Réponse, non, évidemment qu'on ne pensait pas à cela. Donc là, il y a une donnée qui est absolument incroyable, qui est en train de se renverser. Qu'est-ce qui vous a touché, Serge Aurul, en voyant ce film, donc, Séverne?
Les films de Jean-Paul Jaude, ils posent des questions qui se prolongent par des actions. Avec Nos enfants nous accuseront, on a lancé Oui au bio dans ma cantine, parce qu'il est vraiment important que le bio prolifère dans les cantines scolaires ou dans la restauration de collectivités. Mais Séverne, c'est une adolescente de 12 ans qui est aujourd'hui mère de famille et qui revient sur ses dires qui sont encore d'actualité. Il nous faut faire tous, les uns et les autres, où que nous soyons, dans nos villes, dans nos régions, dans nos familles, dans nos entreprises. Il faut agir avec intelligence, avec l'autre. Donc Séverne pose ces questions. Les films de Jean-Paul Jaude, ils sont non seulement bien montés, bien huilés, il y a toujours une belle musique, ouais. il y a un beau montage, mais il pose des questions extrêmement pernicieuses pour je dirais, des méthodes conservatrices qui détruisent notre environnement immédiat lointain.
Et alors, il est aussi allé en Corse, vous connaissez un petit peu, me semble-t-il, pas très très loin d'ici, parce qu'il y a quand même un sympathique breuvage qui s'appelle le Patrimonio, et là, vous avez rencontré Antoine...
Arena.
Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que cette île, qui est une île bénie des dieux, sur laquelle on peut produire plein de spéculations agricoles, aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de produits viennent en Corse, sont transformés sur l'île et ne sont plus produits sur l'île. On devient plus un prestataire de services qu'un lieu de production. Une bonne partie de la charcuterie mise sur le marché comme produit corse, les porcs ne viennent pas de Corse. Et ça porte tort surtout aux petits producteurs insulaires qui, eux, font un travail de fond et qui ne vendent pas plus cher que cette charcuterie qui est élaborée à partir de porcs qui viennent d'ailleurs, voire élaborée sur le continent. Alors ça m'inquiète parce qu'on est en train d'annihiler tout esprit d'initiative de production sur l'île. Et quand on ne produit plus dans un pays, ça commence à devenir la fin de la vie économique. Je suis toujours effaré quand je rentre du continent, vous le voyez très bien comme moi, quand on embarque sur le port de Marseille, il y a toujours un semis de fourrage qui embarque. Attendez, le fourrage, ce n'est que de l'herbe. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'importer du fourrage pour alimenter le bétail insulaire? Il faut se poser des questions.
Alors là aussi, on marche gentiment sous la tête parce qu'il paraîtrait que l'on mange quand même du cochon de Chine ici maintenant, en Corse, hein, du Danemark, on le savait. Donc il arrive sur place et après il est naturalisé très très vite corse, il apprend très très vite la langue, mais c'est quand même ça, pendant qu'il y a un panneau qui est en train de se casser la figure. Mais c'est normal, c'est le festival du vent, hein, donc c'est ça.
Alors, oui, mais il y a aussi des éleveurs qui désirent qu'il y ait un AOC sur la charcuterie en Corse et qu'il y ait une traçabilité sur le cochon parce que... La charcuterie corse, c'est quand même quelque chose.
Ah, c'est une merveille. Et là, nous avons sous les yeux du miel corse AOC, AOP. Là aussi, c'est très intéressant. Donc, miel de châtaignier, miel aussi donc, de maquis. Il y a 70 apiculteurs qui s'en sortent plutôt mieux parce qu'ils ont beaucoup moins de casse qu'ailleurs. Il faut dire aussi qu'il y a quand même beaucoup moins de pesticides sur cette île. Donc, il y a une conséquence aussi directement sur les abeilles.
Et puis, il y a une viticulture de grande qualité donc, qui a montré le chemin. La Corse peut être un territoire bio dès demain matin. Il faut s'en donner les moyens.
Voilà, mais le message est passé parce que là, il faut de la volonté politique aussi. Hein, donc,
La volonté politique, c'est toujours une population qui la transmet aux élus.
Nous allons poursuivre ce voyage avec un homme que vous connaissez musicalement qui s'appelle Nano. Alors, Nano, c'est normal qu'il ait sa place au Festival du Vent. Parce que c'est un accordéoniste, donc il inspire l'air tous les matins sur la plage ici de Calvi, et puis il expire des notes de lumière, c'est assez joli.
Biodégradable dans l'environnement. Il faut les aider, secouons-les. Ils ont bien une adresse, tous ces gens pour qui on vote. C'est Où de mon amour, avec Denis Chessou.
Voilà, et donc quelques notes de Nano, qui est un homme qui joue pour les gens, donc pour vous tous, qui joue pour la montagne aussi, qui joue pour la mer, quand on le voit le matin, lorsqu'il n'y a pas de bruit sur la plage. Alors, il sème des notes comme ça le matin, puis le soir, vous avez des étoiles qui poussent dans le ciel. Alors, je ne sais pas si une relation de cause à effet, mais moi, j'aime le croire, en tout cas, parce que cet homme-là a beaucoup de poésie, et donc c'est un fidèle aussi du Festival du Vent. Donc, Severn, la voix de nos enfants, de Jean-Paul Jaune, vraiment à ne pas manquer. Hein, on prend une... c'est pas une claque, c'est pas ça, c'est plus profond, voilà. Il y a peut-être aussi toute une donnée chamanique avec Severn qui est tout à fait intéressante.
Une houle,
ouais, c'est joli ça, une houle. Alors là aussi, d'autres matériaux de pensée, on va parler architecture et puis on va parler thermique. Et on va commencer avec vous, Françoise-Hélène Jourda, parce que vous êtes architecte, vous êtes quelqu'un en fait qui est connu dans beaucoup de coins du monde, en Allemagne, en Suisse, en Angleterre, peut-être un peu moins connu en France, mais maintenant ça y est, parce que depuis une trentaine d'années, vous étiez quand même dans votre coin, vous avez pris très tôt conscience des enjeux écologiques. Maintenant, vous êtes alors, vous cumulez plein de récompenses, vous avez été élue femme de l'environnement, des trophées Femmes d'or en 2010. Et alors, cette prise de conscience, elle a commencé quand vous étiez à Lyon, quand vous étiez toute petite chez vos parents?
Oui, mes parents avaient une maison qui avait un puits comme source d'eau potable, un puits qui était à sec tous les étés. Et donc, on récoltait les eaux de pluie dans des grandes bassines. On prenait notre douche dans ces bassines. Avec l'eau sortie de la douche, eh bien, on faisait la vaisselle. Et avec l'eau sortie de la vaisselle, on allait arroser les légumes du jardin. Alors ça apprend véritablement à économiser les ressources en général et à recycler.
Et très longtemps, donc, vous avez construit, on va dire, écologique, mais sans l'afficher parce que c'était mal vu.
Ah oui, c'était très mal vu dans les années 80. Hein. Ça faisait Baba Cool, ça faisait Larzac, ça faisait hippie. C'était pas du tout à la mode dans les années 80-90.
Alors la bonne nouvelle, c'est que maintenant, évidemment, les architectes s'y mettent. Hein. Ça a peut-être été aussi un peu long dans la profession, mais maintenant, ces notions de développement soutenable, ça commence à percoler chez les jeunes. Ça y va donc très très vite. Oui. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous nous parliez de la manière dont vous pensez, vous, le bâtiment d'aujourd'hui et de demain. Quand vous parlez, par exemple, de bâtiments biodégradables, qu'est-ce que ce serait? Ça, c'est un de vos rêves, c'est très intéressant.
Oui, c'est un rêve. Bon, un bâtiment biodégradable, ce serait un bâtiment qui pourrait disparaître quand on le souhaite, sans impact sur l'environnement, soit pour retourner à de l'agriculture, par exemple, en lieu et place de l'habitat, soit au contraire pour construire quelque chose de nouveau. C'est-à-dire arrêter de penser que ce qu'on fait aujourd'hui est indélébile et penser aux générations futures qui auront d'autres besoins, besoins qu'on ne connaît pas, et donc laisser la porte ouverte à l'expression d'une part et à la satisfaction de leurs besoins.
Ça veut dire qu'on est complètement à l'opposé presque du geste architectural, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas énormément de techniques et de savoir-faire, mais en général, un architecte a envie de laisser une trace. Alors, on va en remercier quelques-uns, celui qui a quand même construit Versailles, voilà.
Bien sûr.
Bon, mais ce n'était pas du tout la même période, mais c'est ça aussi le changement de mentalité qu'il faut, regarder maintenant le bâtiment comment pour vous.
Bah, c'est-à-dire qu'il faut revenir à une chose simple, c'est que nous, les architectes, nous construisons pour les autres et qu'a priori, il faut essayer de construire un monde meilleur. Notre intérêt à nous, architectes ou investisseurs ou politiques qui construisons des bâtiments, il doit être mis de côté par rapport à ceux, aux intérêts des utilisateurs, des futurs usagers des bâtiments.
Donc
laisser notre ego de côté, voilà. C'est difficile.
C'est pas toujours très très simple. Vous dites que en fait construire en BBC, c'est-à-dire bâtiment basse consommation, c'est facile.
Pas compliqué.
Mais en revanche, sur quoi on bloque ?
Alors, aujourd'hui, on bloque beaucoup sur la question des ressources, de la gestion de l'eau, mais surtout des ressources. C'est-à-dire que construire BBC, oui, mais si c'est en utilisant des matériaux qui eux-mêmes ont demandé énormément d'énergie ou émis énormément de CO2 pour être construits, c'est pas très satisfaisant. Il faut vraiment attaquer sur tous les sujets.
Aujourd'hui, le gros problème, ça va être la rénovation. C'est-à-dire que faire des nouveaux bâtiments maintenant à des normes, même dépassant la réglementation thermique, on va dire 2012, ça, c'est possible.
Absolument.
Bien. C'est pas très compliqué. En revanche, la rénovation, c'est le lourd. Qu'est-ce que l'on fait ?
Aujourd'hui, on ne fait pas grand-chose, malheureusement, pas assez, alors que c'est là le fond du problème, parce que 98% du problème, ce sont les bâtiments existants. Et en plus, les bâtiments existants qui sont les plus des passoires thermiques, ce sont les bâtiments, par exemple, de logements sociaux. Donc là où il y a une population fragilisée qui va être en précarité énergétique dans peu de temps, donc c'est un enjeu aussi social extrêmement important. Or, on sait faire. Le problème, c'est de trouver les moyens de financer, par exemple. On finance le logement social neuf, mais on finance très très mal la rénovation thermique des logements existants.
Nous sommes là en train de parler sur une table, on va dire presque en bois, il ne faut pas exagérer complètement, parce qu'il n'y a pas quand même complètement que du bois. Bon, c'est votre matériau de prédilection, le bois.
Oui, parce que c'est un matériau renouvelable, c'est un matériau aussi, il est issu de forêts gérées, qui est un piège à carbone, qui va vraiment assainir l'atmosphère. C'est un matériau qu'on peut recycler trois fois. On pourrait aujourd'hui, en Europe, calcul fait, uniquement avec l'accroissement annuel de la forêt européenne, construire tout en bois, absolument tout en bois, ce qui éviterait d'utiliser des matériaux qui sont non renouvelables, comme le sable et le gravier du béton, ou comme l'acier ou l'aluminium.
On va juste rappeler qu'en ce qui concerne le sable, on a beaucoup de sable qui arrive chez nous, mais qui vient du Maroc, qui vient de Tunisie,
au prix de la destruction d'écosystèmes, d'énormément de CO2 et d'énergie utilisée pour le transporter.
Alors, Françoise-Hélène Jourda, si je vous dis le mot tour, alors je ne parle pas des superbes tours génoises, évidemment, qui ceinturent la Corse, qui étaient donc des tours de feu, des tours de guet, pas celle-là. Mais comment vous réagissez?
Très mal.
Ah oui, d'accord.
Très très mal. Parce qu'aujourd'hui, on laisse croire que les tours, construire une tour, c'est une bonne réponse au problème écologique, sous prétexte que ce serait le moyen d'apporter de la densité et donc de ne pas utiliser de surface agricole, par exemple, pour construire. Alors que quand on fait l'empreinte écologique d'une tour, c'est catastrophique. Catastrophique. Et ne parlons pas du vécu des habitants dans une tour.
Donc parfois, il y a des fausses bonnes idées écologiques, quoi, on va dire.
C'est-à-dire qu'il y a toujours tentative de détourner un discours à son propre profit. Voilà.
Donc je renverrai quelques mails à ce,
oui,
à ce sujet.
Volontiers.
À vos côtés, Adel Mourtada, qui est un homme qui est thermicien, qui est libanais et qui travaille donc sur les bâtiments lui thermiques. Il est expert alors, auprès de l'Association libanaise pour l'environnement et la maîtrise de l'énergie. On va dire que c'est un peu l'équivalent donc, de l'ADEME en France. Puisque nous sommes dans ce bassin méditerranéen, donc les uns les autres aujourd'hui, on va le rappeler, si on regarde du côté de l'Est, Rome n'est pas loin, du côté de l'Ouest, Barcelone, donc, n'est pas loin. Vous élargissez évidemment encore plus ce cercle ou bien cet ovale. quelles sont les contraintes et la réalité du bassin méditerranéen aujourd'hui ?
Voilà. Le bassin méditerranéen, c'est une des zones les plus vulnérables et les plus touchées par le changement climatique. Alors là, nous sommes entre Pays Nord et Pays Sud. On a donc des contraintes. Je pense que je commence un peu parce qu'elle a dit, donc, Françoise Hélène, par exemple, elle a dit que la construction ici en bâtiment en bois, c'est la stratégie. Malheureusement, dans les pays du Sud, il n'y a pas le bois, par exemple. Et le bâtiment basse consommation, BBC, il risque d'être chez nous HCC, c'est-à-dire haute consommation de climatisation. Ce qui veut dire que les exemples ici ne sont pas tout à fait appliqués là-bas. En plus, chez nous, dans la région actuellement, donc, nous sommes plus touchés dans la rive sud que la rive nord. Il y a une augmentation de température très importante. Ça fait donc plusieurs années qu'il y a de la sécheresse. Il y a moins de 50% de pluviométrie. Il y a un exode important actuellement qui se fait donc du milieu rural vers les villes. Les terres fertiles actuellement sont donc objet d'une guerre intérieure de chaque pays entre les éleveurs et entre les agriculteurs. À cause de la sécheresse, on coupe les arbres fruitiers, et ceci donc contribue à l'augmentation du gradient de température et de l'augmentation de température. Donc c'est tout un problème qui est là. Surtout dans la région, il faut voir que dans la région du sud Méditerranée, actuellement nous sommes à peu près 270 millions et bientôt en 2030 on va être 360 millions. Ce qui veut dire qu'il y a un grand nombre de jeunes, à peu près 61% de moins de 24 ans. Il y a un grand besoin de bâtiments, de logements, de travail et ainsi de suite. Tout ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire avec ce changement climatique, il y a un bouleversement au sein de chaque pays. Et le risque est très important que cette jeunesse qui va en train de fuir maintenant le milieu rural, qui arrive dans les villes, qui ne trouve pas un emploi et tout, qu'il va plus ou moins dans certains temps se ruer pour venir en Europe. Et qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va construire un mur pour les empêcher ? Ou il faut lutter tous ensemble actuellement pour faire face au changement climatique ?
Alors Adèle Mourtada, une fois ce constat établi, est-ce que vous tentez d'éviter, on va dire, la climatisation dans des pays donc, comme le vôtre, le Liban, la Tunisie, le Maroc, avec des méthodes, on va dire, plus anciennes mais réactualisées qui ont été éprouvées ?
De toute façon, je veux dire que donc, actuellement, dans les pays du Nord, il y a la volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il y a une volonté aussi d'utiliser les énergies renouvelables. Dans les pays du Sud, il y a un grand potentiel, qui est le soleil aussi. Et il y a aussi un savoir-faire ancien. Ici, il y a un savoir-faire. Bien sûr, il y a énormément de moyens. Mais pour le moment, ça nécessite il y a un moyen financier. Puisque si on donne l'exemple du Maroc, ils sont en train de construire de l'habitat social. Pour le grand nombre. L'habitat social, le coût, c'est combien ? C'est 22 000 euros par logement. Alors imaginez avec 22 000 euros de logement, si on va faire de BBC, par exemple, oui. Qu'est-ce que ça va donner ? Donc, il s'agit maintenant d'appliquer le savoir-faire qui est le plus adapté et au moindre coût pour faire face à cela. Il y a de bons exemples, mais il faut beaucoup mettre en commun nos efforts pour faire face.
Alors, comment construire des bâtiments qui intègrent le changement climatique, les préoccupations énergétiques, c'est votre quotidien. Et comme on aime bien aussi rêver dans ce Festival du Vent, eh bien, vous avez lancé un projet qui s'appelle Heliostana. Alors, Heliostana, en quelques mots, on va peut-être pas rentrer dans une technique extrêmement pointue, mais d'abord, c'est une île imaginaire de la Méditerranée.
Oui, effectivement, ce projet a été lancé aussi avec l'appui de WWF. Donc, c'est un projet, en fait, c'est une île imaginaire qui se trouve quelque part dans la Méditerranée. Dans cette île imaginaire, on a imaginé tous les problèmes des pays du Nord et des pays du Sud, vis-à-vis donc du changement climatique, les problèmes énergétiques, les problèmes environnementaux et tout. Donc, on a analysé donc tous ces problèmes et cette île imaginaire. Et le président ou le premier ministre de l'île imaginaire, il a assisté à Copenhague en 2009. Il a été complètement déçu de Copenhague. Et il est rentré chez lui et en ce moment, il a mis en place un grand chantier. C'est un chantier, en fait, qui est une grande concertation qui est basée tout d'abord sur les collectivités locales, puisqu'on sait que les collectivités et tout ça, c'est là où il faut commencer, par de bas en haut.
Ah bah c'est elles qui vont se taper le boulot, quelles que soient de toute façon les régions et les pays. Hein. Ah oui, non mais c'est ça.
Oui, oui, c'est vrai. Donc ce qui s'est passé, ils ont défini une stratégie énergétique sur 10 ans pour passer d'une situation de dépendance énergétique donc dans l'année de 2010 à une situation d'une certaine indépendance énergétique en 2020. Donc, Ce guide, Elias Tana, c'est un guide qui retrace, qui reprend la majorité des bonnes leçons et des bons exemples qui se trouvent partout et par là, dans la Méditerranée. À vrai dire, il y a des exemples, que ce soit en Tunisie, en France, en Allemagne, en Espagne, partout. Donc, dans ce guide, Elias Tana, donc, ce pays, il a repris toutes les bonnes leçons et tous les bons exemples et il a bien mis en place un plan stratégique pour l'énergie renouvelable et qui est réalisable.
Donc c'est un guide déjà de bonnes pratiques, de choses déjà éprouvées.
Exactement, avec des données économiques et de benchmarking, c'est-à-dire celui qui veut retrouver des références sur le photovoltaïque, sur l'énergie renouvelable et tout, il en trouve bien dedans.
Alors, vous fonctionnez avec les architectes, j'imagine, hein.
Alors pour l'architecture, en fait, on a parlé, en architecture surtout, donc on a parlé d'une réglementation thermique.
D'accord.
Voilà. Okay. Elias Tana est une île au trésor, Denis. C'est une île au trésor parce que l'imagination et le civisme écologique sont au pouvoir.
Voilà.
Et puis il faut arrêter de projeter nos modèles à nous, Européens, sur ces pays du Sud, ces pays émergents. Les solutions, elles sont différentes. Il faut d'abord les résoudre au niveau de l'urbanisme et de l'architecture et arrêter de faire croire que nos modèles européens sont des modèles de modernité. C'est faux. La modernité doit être autre autour de la Méditerranée et elle a besoin d'images fortes aujourd'hui qui n'existent pas encore, pour pouvoir servir de modèle, appliquer ces modèles et contribuer à résoudre le problème.
Adèle, président d'Elias Tana. Adèle, président.
Non, mais ce qui est très intéressant, Swann Jourda, aussi en vous écoutant les uns les autres, c'est que de même que vous dites, on n'a pas à plaquer nos modèles occidentaux, évidemment, sur d'autres pays comme cela, mais aussi, on ne sait pas comment vont vivre, vous le disiez, donc les gens dans 50 ans, d'où cette notion de flexibilité, de réversibilité.
Voilà. Oui, ça c'est très très important. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser qu'aujourd'hui, on sait ce que va être notre futur et ce que feront les futures générations. Il faut vivre vraiment, comme on le dit souvent, en empruntant la planète, mais en étant capable de la rendre aux générations futures très vite.
Jean-Paul Jaude.
Oui, ce matin, j'ai assisté à un débat très intéressant, justement, avec les architectes et le public. Et tout à l'heure, juste avant l'émission, je discutais donc avec eux et je disais, mais il y a une chose que vous devriez demander. Quand une maison se construit, par exemple, quand vous faites les plans d'une maison, il devrait obligatoirement, pour qu'on délivre le permis de construire, ne pas couper les arbres autour de la maison et surtout que cette maison, au lieu qu'elle ait tout autour d'elle de la pelouse, qu'elle ait au moins un potager. Qu'elle ait au moins un potager pour initier les gens et surtout les enfants pour qu'ils se rapproprient le vivant. Parce que c'est ça la problématique aujourd'hui, c'est que nos enfants, comme le dit Pierre Rabhi dans le film, dans Severn, il faut se réapproprier le vivant. Voilà ce qu'on a perdu. Et le potager, nos enfants nous accuseront. On a l'exemple du potager de l'école de Barjac, le prouve bien, c'est que les petites Barjac se sont réappropriées le vivant à travers ce potager. Donc, s'il vous plaît, messieurs les architectes, dans vos immeubles ou dans
mesdames,
votre île,
mesdames
et messieurs, voilà. Pardon, et, s'il vous plaît, imposez, parce que c'est on est obligé, on mange trois fois par jour, que les gens puissent devant chez eux.
Oui, mais c'est pas seulement dans les maisons individuelles, on sait que c'est une mauvaise solution parce que ça utilise énormément de terre. Il faut aller vers une densification. Mais retrouver des sources d'alimentation dans les villes, dans l'habitat collectif, la possibilité d'avoir des potagers. Alors, ça commence un peu avec les jardins familiaux. On parle beaucoup d'urban farming en ce moment, de choses comme ça. C'est retrouver cette connexion à la fois psychologique, de connexion avec la nature, mais aussi cette source possible d'alimentation et pédagogique, qui génère du respect pour l'environnement, il faut le retrouver partout. Ce n'est pas seulement l'habitat individuel, c'est au centre de nos villes, villes qu'il nous faut soigner et réparer d'urgence, qu'il faut retrouver cette biodiversité dont on parle et ces sources d'alimentation.
Bon, on a du boulot, hein. À la fois on a du rêve de l'utopie, mais quand les rêves s'additionnent, ça commence à devenir une réalité, donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qui vous rend confiant, Adèle Mourtada, dans ce que vous voyez actuellement ?
De toute façon, comme on a besoin d'un grand nombre de logements dans les années à venir, surtout dans les parties du Sud, donc le bon exemple actuellement, c'est de construire. Nous sommes en Corse, c'est une île, mais des îlots qui sont tout à fait indépendants de point de vue énergétique et de point de vue aussi alimentation. Et c'est possible, c'est-à-dire il ne suffit pas d'économiser l'énergie, mais il faut traiter les eaux, l'eau. Puisque le grand problème pour l'avenir, c'est l'eau potable. Actuellement, on en manque énormément d'eau. et la guerre et les futures guerres dans le Proche-Orient et dans la région, c'est les guerres de l'eau. C'est ça ce qui est important. Donc maintenant, il faut construire des quartiers, des îlots indépendants que l'eau utilisée, l'eau grise, elle est recyclée, et l'eau usée, elle est recyclée, on peut l'utiliser aussi pour faire de la végétation verticale. Donc, pour faire plaire, donc, s'il n'y a pas de place pour les jardins en horizontal, on peut le faire en vertical, on peut donc construire des serres, et avec ces serres, on utilise l'eau qui a été recyclée et retraitée, et aussi, on peut faire aussi de l'alimentation, puisqu'on peut mettre des poissons dedans qui vont vivre. Il y a des algues qui peuvent pousser, et on peut les utiliser pour produire de la biogaz et la biomasse. Donc, on peut, tout ça, ça existe. Le savoir, ça existe actuellement. Il suffit donc de le produire à large échelle et il faudrait une volonté pour le faire. Et ça, c'est le moment de le faire.
Michel Serres, philosophe que vous connaissez, disait tout à fait justement que la fin du pétrole, ce n'était pas la fin du monde. En revanche, la fin de l'eau, là, ce sera beaucoup plus problématique. Bon, on n'en est pas là, mais en tout cas, on avance les uns les autres. Et puis, il y a un homme qui nous a écouté là aussi, un autre créateur, c'est J.P. Nataf. Donc, il est avec nous, il vous a écouté tout à fait attentivement. Et on adore cette chanson de son dernier album, « Viens me le dire ». J.P. Nataf avec nous avec « Viens me le dire », pas si innocent que ça par rapport aux problèmes environnementaux. J.P. Nataf qui poursuit donc sa carrière en solo, qui, je disais, buvait du petit lait. Vous pourrez voir « Severn », donc « La voix de nos enfants » de Jean-Paul Jaude, bientôt sur les écrans. Ce sera à partir du Jean-Paul Jaude Du 10 novembre.
2010.
Voilà, 10 novembre. Oui, bah oui, pas 2011 quand même, non, effectivement. Donc, 10 novembre de 2010. Donc là, ici, c'est l'avant-première. Question extrêmement ouverte. Je ne vais pas dire que vous êtes forcément un dingue d'environnement. Vous êtes un citadin au départ, racontez-nous.
Moi, je suis un pur citadin. Moi, je suis un enfant de l'asphalte absolu. Je crois que mon rapport à la nature dans mes 10 premières années, c'est le parc Montsouris.
Ah oui, bah ouais. c'est pas mal dans le 14e arrondissement.
C'était
oui.
pas mal. C'était un refuge.
Mais oui, c'est un refuge. Ah,
c'était un refuge. J'avais un gros rocher que j'avais repéré comme ça, qui avait un peu une forme de transat.
Ouais.
Que je m'étais un peu approprié de façon dans mon imaginaire, comme ça c'était mon refuge. Mais la vraie campagne, tout ça, c'est ce que je disais hier avec mes collègues off the record, puisqu'on n'était pas à la radio. Mais ouais, la vraie campagne, moi, ça m'a fait peur quand il dit faut se réapproprier le vivant, tout ça. Moi, il faudrait que je me l'approprie, mais c'est quelque chose que j'ai pas connu. Donc il y a même des gens de ma génération qui n'ont pas connu ça, parce que finalement. Peut-être c'est les années 60, on peut commencer à avoir des purs
Alors
citadins
aujourd'hui,
qui n'ont pas vu. Il y avait plus les faubourgs déjà. J'ai commencé des études d'architecture. On a eu comme sujet de projet de faire le parc de Belleville. Donc à l'époque sur un quartier qui était très vétuste comme ça, qui était des petites baraques ça, où on nous expliquait il y avait encore des fermes dans les années 50. Donc moi j'ai vu apparaître ce parc de Belleville que j'avais très très mal projeté en tant qu'étudiant, mais par contre, maintenant j'habite à 100 mètres.
C'est pour ça que vous avez fait chanson après d'ailleurs. Oui.
Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que donc j'ai vraiment pas vu, j'ai pas vu ça quoi. Il fallait vraiment qu'on aille à la. Alors après, oui, bien sûr, on partait en vacances. Hein. Je connais la mer, je connais la montagne.
Oui.
Mais dans le quotidien, c'est pas évident. Donc pour moi, c'est quand même des personnages fantasmagoriques presque. La montagne, la mer, tout ça, c'est des héros de chansons, des héros d'histoire. Voilà.
Alors aujourd'hui, on va dire, quel peut être le rôle de l'artiste? Parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Bon, évidemment qu'on peut citer des chansons comme « Assez » de Claude Nougaro, Souchon nous a offert « Pardon, le monde change de peau ». Il y a déjà plus de 30 ans, Julien Clerc chantait « Poisson mort ». Mais ça, est-ce que c'est des thèmes possibles ou bien simplement c'est des sources d'inspiration, cette nature, cet environnement, de manière indirecte pour vous?
Moi, je pense que c'est pas le rôle de faire penser à travers une chanson. Le rôle, c'est d'émouvoir ou c'est de toucher. C'est pas, on ne doit pas arriver et dire voilà, c'est une leçon, c'est pas un manifeste, une chanson. Par contre, on doit être sincère et voilà, ce qui est important, c'est d'être en accord avec sa conscience, avec ce qu'on pense. Moi, un jour, je peux penser rouge et le lendemain, je peux penser noir. Mon devoir, si, en tant qu'artiste, c'est d'écrire rouge ce jour-là et noir le lendemain. Donc quand il y a un coup de gueule, quand on n'est pas content, il y a des jours on se lève et on se dit mais c'est pas possible, voilà, ça j'y crois pas, cette façon de traiter le littoral ça me plaît pas, ou de traiter un être humain, enfin ou bêtement se mettre aussi dans la peau de ceux qui vont commettre ce geste qui vous gêne, parce que c'est important. En tant qu'artiste, quand on écrit des livres, des films, c'est de se mettre aussi à la place du criminel, pas toujours à la place de la victime. On n'est pas que là pour dire qui est-on pour se poser. Donc voilà, nous en tant qu'artiste, on est juste, on peut pas dire que je suis un artiste militant. Enfin, je trouve que c'est pas très intéressant. Après, on s'enferme dans une petite boîte et on sera un peu moins artiste au bout d'un moment.
Jean-Paul Jaud, de cinéaste.
Oui, je vais parler d'un autre chanteur, hein, comme vous, qui s'appelait Jean Ferrat. Jean Ferrat était capable de donner des informations, d'alerter, mais tout en étant un grand artiste.
Oui, oui, oui.
Voilà.
Je suis d'accord, on ne doit rien s'interdire. Ouais. Mais c'est intéressant aussi si on dit, par exemple, je ne sais pas, je vais faire une chanson parce que je m'élève contre le massacre des dauphins au Japon. C'est intéressant aussi de faire la chanson du pêcheur de dauphins.
Oui.
Pourquoi? Quels sont les intérêts en jeu? Voilà, il a aussi une famille à nourrir. Il y a d'autres choses. Je pense que le propre de l'artiste, de l'écrivain, du cinéaste, c'est aussi de regarder des deux côtés. Après, nous, de notre point de vue, la démarche environnementale, on va dire. Alors, est-ce que c'est mieux que le téléchargement? C'est vrai qu'il y aura moins de galettes, il y aura moins de détritus. Maintenant, est-ce que c'est pas important aussi de se dire que peut-être que des choses qu'on jette, c'est parce qu'il n'y a pas mis assez de soins. Voilà, un meuble sur lequel on va travailler, une chanson sur laquelle on travaille, un livre, tout ça, c'est quelque chose qui va peut-être se passer de génération en génération. Si tout le monde y met du soin, on est dans une démarche où on va vers moins de déchets aussi.
Alors ce que je vous propose, JP Lintaf, on termine aussi rituellement cette émission par un espèce de petit bloc-notes. Allez, c'est parti.
L'agenda de CO2 Mon Amour.
Agenda de CO2, mon amour, avec donc un premier son, car il y a deux festivals. Vous avez donc le Festival du Vent, et puis vous avez un autre festival qui est celui de Ménigout, dans les Deux-Sèvres. Donc là, c'est le Festival ornithologique, et nous allons donc rejoindre Dominique Brouard. Eux, ils en sont à la 26e édition. Hein. Vous êtes battus, hein, cher Serge.
Mais ils font un travail fantastique.
Mais c'est génial. Ils regardent les oiseaux. Donc quel est l'état d'esprit, Dominique Brouard?
Ah ben ça se présente bien comme d'habitude, donc les ornithologues affluent en masse de tous les horizons de France et puis d'ailleurs bien entendu, et les cinéastes animaliers également, donc il y a 14 pays représentés cette année, la majorité des cinéastes sont présents aux côtés de grands noms donc du cinéma animalier français, donc l'état d'esprit est le même, on essaie de combiner à la fois les questions sérieuses de maintien de préservation de la biodiversité par l'image et puis la convivialité. C'est un peu la caractéristique de Ménigout.
Qu'est-ce qui fascine toujours dans le monde ailé, dans le monde des oiseaux?
Les oiseaux, c'est, je veux dire, on a tous, à un moment donné, pensé à voler, à regarder le monde avec un peu de hauteur. Et je crois que les oiseaux, ça inspire le rêve, la création. Et puis, par ailleurs, c'est quand même la manière la plus facile, tout compte fait, d'apprendre la nature. L'ornithologie, c'est finalement relativement simple à partir du moment où on a une bonne paire de jumelles et un bon guide naturaliste, éventuellement des conseils d'un ornithologue avisé. C'est plus facile à filmer aussi que les mammifères.
Alors, donc ça se passe à Ménigout, c'est encore donc ce week-end, c'est dans le département des Deux-Sèvres. Et je tiens aussi à tirer un coup de chapeau à cette revue qui s'appelle Stantari, autrement dit les menhirs. Je suis mon savant, je l'ai appris il y a 30 secondes, ça voulait dire les menhirs. Et donc c'est l'histoire naturelle et culturelle de la Corse. Ce sont des gens donc, qui se battent bien et dans leur numéro de novembre, eh bien, vous avez un numéro qui est consacré entre autres au busard cendré en Corse et puis aussi à la vigne au changement climatique. Donc ça c'est une chose qui est importante, donc ça s'appelle Stantari et j'ai sous les yeux donc un ouvrage très complet sur un numéro très complet sur la flore de la Corse et les surprises de son évolution. Vous ne le saviez peut-être pas, c'est le jour de la nuit aujourd'hui. Alors là c'est tout jeune, hein, c'est la deuxième édition, j'allais dire extinction des feux mais ouverture de la parole avec Claire Osatchik de l'association Agir pour l'environnement et qui coordonne les 400 manifestations nationales en France.
Donc le jour de la nuit, c'est vraiment une manifestation de sensibilisation à la protection de l'environnement nocturne et aux phénomènes de pollution lumineuse. Donc l'idée, c'est vraiment de faire redécouvrir aux gens les phénomènes de pollution lumineuse et de redécouvrir leur environnement nocturne partout en France grâce à des animations et grâce à l'extinction de plein de villes implantées vraiment sur tout le territoire français.
Alors exemple d'animation, parce que nous sommes dans l'année de la biodiversité.
Par exemple, en pleine montagne, on a Mountain Wilderness qui va organiser une randonnée dans un massif montagneux près de Grenoble. Donc vraiment pour à la fois pour prendre du recul et voir les villes éclairées et en même temps être en capacité de regarder de nouveau les étoiles qui sont vraiment en voie de disparition dans les villes aujourd'hui. Mmh. Et donc on va avoir des bivouacs et des balades nocturnes, on va avoir l'écoute aussi des animaux nocturnes tels que les chauves-souris et de nombreux oiseaux qu'on peut entendre de nuit, notamment les oiseaux migrateurs.
Et oui. Et si on part dans le nord, si on part à Lille?
Alors, si on part à Lille, la ville de Lille est très très impliquée. Elle organise plusieurs extinctions dans le centre-ville, hôtel de ville, le beffroi, l'éclairage de la place de la République. Et avec des associations d'astronomie, elle met en place des animations en pleine ville avec des télescopes pour observer les étoiles et les constellations ce soir-là et des balades nocturnes dans les bois de la ville à la découverte des créatures de la nuit. La ville de Lille est très engagée déjà depuis 2004 et grâce à la rénovation de tout son parc d'éclairage public, elle a réussi à économiser 1 300 000 euros par an.
Alors en Corse, si vous êtes astronome, amateur ou professionnel, ben là vous avez vraiment de la chance parce que vous avez très peu de pollution lumineuse, donc vous le savez, on ne peut pas avoir tous les handicaps non plus, donc ça vous ne l'avez pas. Et c'est très beau, vous pouvez monter sur des points hauts, il y a aussi le Lot comme ça. Je tiens donc aussi à souligner la présence de la compagnie Pile Poil, ils font un boulot absolument formidable avec les enfants, et on en reparlera dans un prochain agenda de CO2 Mon Amour. J'allais presque dire un petit mot de la fin comme ça, puisqu'on est quand même en train d'envisager un avenir un peu meilleur dans cette émission depuis longtemps, Françoise-Hélène Jourda.
Oui, moi je trouve on vit une époque aussi qui est formidable parce que tout ce qu'on fait et tout ce qui va se passer, c'est source d'innovation, c'est source de plaisir, c'est source de bonheur. En tout cas, on a envie de le faire partager et rien que ça, ça vaut le coup.
Jean-Paul Jaude.
Bah moi, le mot d'espoir, c'est en regardant Severn, l'affiche du film où Severn attend son premier enfant. C'est ça mon mot d'espoir parce que si Severn met un enfant au monde, c'est qu'elle a de l'espoir.
Adèle Mourtada.
Je trouve qu'il y a beaucoup d'initiatives actuellement, comme le plan méditerranéen solaire, comme le Desertec, le projet, donc comme le Clean Technology Fund, Transgreen. Toutes ces initiatives reconnaissent un potentiel de la région et ce sont donc dignes d'une bonne collaboration pour un avenir durable dans la Méditerranée et une bonne adaptation au changement climatique.
Alors depuis ce grand navire méditerranéen qui s'appelle la Corse, Serge Auru.
Nous ne sommes pas responsables de ce qui arrive aujourd'hui, mais nous serons responsables de ce qui arrivera demain. Alors envoyons massivement les gaz à effet de rêve dans nos vies et allez voir Severn début novembre en salle. C'est la fête des Séverines.
C'est pas mal. C'est, écoutez, hein, envoyez les gaz à effet de rêve. Moi, on va prendre dans cette émission, on va changer le titre aussi, pourquoi pas.
Juste un petit mot
très rapide.
Pour finir, on est au Festival du Vent et je ne peux pas m'empêcher de citer Isabelle, qui est la monteuse du film Severn et qui fait le film sur le Festival du Vent en ce moment.
Et merci Isabelle. Et merci aussi Isabelle Autissier, qui est la marraine du Festival du Vent carrément aujourd'hui. Merci alors à Serge Jakubowski, à Jean-André Giannichini de Frequenza Mora, à Christophe Mongin, notre régisseur, Marion Lelay, Jean-Christophe Pinaza, Valérie Ayestaraï, Denis Chessou, je vous souhaite un excellent week-end où que vous soyez. Les sites nourris par Anne Gouzon sur le site de CO2 Mon Amour. Demain soir à 19h54, si vous avez des enfants et même si vous n'en avez pas, ce sera La Tulu, mon petit loup.